Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. On continue notre série sur le voyage au Moyen-Âge. Je vous conseille d'écouter d'abord les deux épisodes abordant la route et ses dangers. Vous découvrirez toutes les difficultés qu'on rencontrait à l'époque lorsqu'on décidait de partir loin de chez soi. Car veillage vient du mot viaticum, c'est de la bouffe. Plus exactement, la provision de route. Le veillage, ça n'est pas du loisir, mais un truc sérieux et organisé dans lequel on se lance avec précaution. D'ailleurs, le marcheur par excellence est le soldat ou le pillard qui part en raid très loin de chez lui. En effet, guerre et marche à pied sont assez liés. Le latin « versus », « partir », « aller vers », « aller contre » a donné le vieux francique « vera », l'allemand « vers » et le français « guerre ». Le gaulois « singo », « marcher », désigne à la fois le marcheur et le fantassin. On le retrouve dans l'expression « Vercingétorix », le grand chef des guerriers, une idée antique qui irrigue tout le Moyen-Âge. Au XVe siècle, l'écrivain Alain Chartier le dit encore, les marchands gannois, nobles voyageois. Les nobles sont l'aristocratie combattante. S'ils voyageois, c'est qu'ils guerrois. Mais heureusement, il y a de nombreuses autres raisons de prendre la route. Mais pourquoi prendre de tels risques? C'est ce que nous allons découvrir dès maintenant en parlant des motivations qui poussaient les gens d'autrefois à partir à l'aventure. Car vous allez le voir, il n'y a pas que la guerre.
Ladies and gentlemen. The story you are about to hear is true.
Le monde entier est notre patrie à tous, disait Erasme au Moyen-Âge. Pas étonnant qu'on ait choisi son nom, Erasmus, pour désigner un programme d'études à l'étranger. Car comme à l'époque, se former, acquérir des compétences, est un puissant motif pour partir au loin. La littérature médiévale déborde de jeunes chevaliers errants. Au sortir de l'adolescence, le noble sans attache ni domaine trouve dans le voyage une occasion de faire ses preuves et de se forger un caractère. Parfois, cette jeunesse s'éternise. Par exemple, Guillaume le Maréchal, qui aimait tellement les tournois, les croisades et les guerres, ne s'est posé que vers 50 ans. Le marchand novice voyage également à travers l'Europe pour dresser une carte mentale de la compagnie commerciale dans laquelle il espère gravir des échelons. Stagiaire à l'étranger, puis facteur de succursale, directeur s'il est talentueux et enfin associé de la compagnie. Quant aux artisans, la moitié d'entre eux se forment loin de chez eux. Certains diplômés ne quittent jamais la route, comme les célèbres bâtisseurs de cathédrales qui parcourent l'Europe d'un chantier à l'autre. Même le paysan, lorsque le domaine familial est trop petit, s'aventure sur les routes comme valet agricole. De nombreux jeunes des campagnes cherchent leur premier emploi en ville, notamment les femmes comme domestiques. Le premier motif de déplacement des jeunes femmes reste d'ailleurs le mariage. Les strictes lois de l'Église interdisent d'épouser un parent. Alors, il faut souvent quitter son village pour trouver chaussure à son pied. Oubliez le cliché des gens qui ne sortent jamais de chez eux. D'ailleurs, il existe un contre-exemple parfait, l'étudiant médiéval. Il sévit particulièrement dans les cités universitaires, comme Bologne, Paris, Montpellier ou Oxford. Parti à 15 ans, il ne reviendra chez lui qu'à 22 ans. Turbulent et buveur, il se fait un ennemi du citadin qui l'exploite, le critique pour ses excès et les accidents qu'il cause. Mais je vous préviens, pas touche. L'étudiant constitue la future élite du pays, protégée par les rois, papes et empereurs, mais aussi les nations, ces syndicats de compatriotes qui, depuis leur auberge attitrée, proposent bourses, services postaux et vin en quantité. Car je n'ai pas fini de le répéter, l'homme médiéval, surtout en déplacement, recréait du lien. Donc, à Florence, les Francs, les Allemands, les Anglais, chacun a son auberge, son groupe, son syndicat d'entraide. C'est bien pratique pour le travail, puisqu'évidemment, le réseau professionnel est la seconde motivation principale pour voyager. Bien des carrières se font au gré des chemins. Professeurs, marchands, artisans spécialisés et mercenaires ne cessent de courir ça et là à la recherche de leur prochain contrat. Mais certains métiers sont carrément dépendants de la route. Le diplomate, par exemple, manifeste la volonté de son maître. Tandis que les États se centralisent, les échanges se densifient. Au XVe siècle, il devient nécessaire de créer des missions permanentes à l'étranger. Les plus chanceux abandonnent enfin la route pour le confort d'une ambassade fixe. Le messager, lui, ne peut pas en espérer autant. Il transmet les missives importantes, un service qui existe depuis l'Antiquité romaine, mais réformé et perfectionné tout au long du Moyen-Âge. Ils sont des milliers, chevauchant à une vitesse exceptionnelle, faisant de l'Europe une période d'échange et de communication formidable. Plus lent, le troubadour est quasiment marié avec la route. Impossible de le mettre dans une case, puisque ce métier est exercé par des misérables, des bourgeois, des nobles et même des rois. Les amateurs de l'astrobar voyagent donc chacun à leur manière et selon leur plaisir, comme Cercamon, surnommé le cherche-monde. Leur vie est dure, mais belle. La palme de la pire carrière associée au voyage revient sans doute aux marins. Un équipage est compagnonique. Il est fait d'apprentis, les mousses, de compagnons et d'un maître qui n'est ni le pilote ni le capitaine. Les liens sont très forts, souvent familiaux, et heureusement car la vie à bord est rude et le danger mortel. L'union fait la force, et ça les rois l'ont bien compris. Eux aussi font carrière sur la route. Car au Moyen-Âge, le trône est souvent une selle de cheval. Plus on est puissant, plus on voyage pour maîtriser sa zone d'influence, son réseau, ses possessions. Le roi est donc poussé sur la route par la guerre ou tout simplement par la vaste étendue de son royaume. Le comté de Toulouse, par exemple, est surnommé Partes Remotae, les lointaines parties du royaume ou les marches éloignées. La France est si immense qu'on considère encore des parties sauvages, inconnues, voire presque exotiques. D'ailleurs, les officiers en profitent pour mal s'y conduire, ce qui explique les fréquentes interventions royales dans le sud. Encore une raison de se déplacer. Et ces voyages durent longtemps car en chemin, il faut se lier au peuple. Le roi doit apparaître, exhiber sa puissance. Chaque entrée dans une de ces bonnes villes devient tout un cérémonial soigné, avec un dais précieux, des éperons d'or, un cheval d'élite. Les cités offrent des cadeaux aux souverains, se parent de teintures et de banderoles colorées, tandis que musiciens, officiers et consuls font la parade. Du coup, le séjour dans une ville peut s'éterniser. Certains papes s'installent plusieurs années dans telle ou telle cité. Et sans faire aussi long, les plus puissants princes sont rarement chez eux. Par exemple, en 1344, le duc Eudes IV de Bourgogne fait un voyage dans la Moyenne. Il quitte son domaine d'Argilly durant 6 mois. Sa longue tournée en Avignon lui permet de régler ses affaires, mais aussi de parler de croisade avec le pape, de négocier la paix avec le roi d'Angleterre et de faire découvrir au roi de France ses domaines. Bref, en une demi-année, il fait autant qu'un chef d'État de nos jours. C'est exactement le même truc. Inspection, diplomatie, grands contrats internationaux, et avec sa paperasse qui le suit en charrette, il continue de gérer les affaires courantes. La dernière grande raison de voyager au Moyen-Âge est beaucoup moins matérialiste, car la route est une spiritualité, et il est possible de prier avec ses pieds. La religion fait en effet beaucoup marcher. Papes, évêques, légats et métropolitains ont toujours un concile auquel se rendre. Mais surtout, une poignée de religieux exceptionnels ne s'arrête absolument jamais. Guillaume de Rubruck va jusqu'en Mongolie et Bernard de Clairvaux zigzague dans toute l'Europe pour prêcher la croisade. Reliques, pèlerins et croisés, nous allons le voir, c'est la même chose, parcourent tous les chemins d'Orient et d'Occident. Au Moyen-Âge, la procession et la transition des reliques sont d'utilité publique. En effet, ces armes spirituelles sont supposées détenir la force protectrice d'un saint. Rattachées à une région, une ville ou à leur communauté, elles y voyagent régulièrement afin de regagner leur sanctuaire. Encore de nos jours, une procession religieuse comme le chemin de croix de Pâques est un pèlerinage miniature cyclique. Les reliques sont également de sortie à l'occasion d'un concile religieux, d'une assemblée judiciaire ou d'une négociation de paix. Elles accompagnent les souverains dans tous leurs déplacements, leur énergie bénéfique fait ainsi régner l'ordre et leur retrait du pays, en cas de raid viking par exemple, est un véritable aveu d'abandon puisque cette énergie est ôtée au pays, ainsi abandonnée aux païens. Il arrive qu'on ne déplace pas du tout cette relique qui est jugée trop précieuse. Si elle reste dans son sanctuaire, c'est donc aux hommes de venir à elle. Et là, on les appelle des pèlerins. À Jérusalem, puis à Rome et Compostelle, les reliques s'accumulent et attirent tous les chrétiens. Du côté des musulmans, la précieuse Kaaba de la Mecque a aussi sa propre route qui arrive depuis l'Espagne tout le long de la côte africaine. Le voyage spirituel du pèlerin sert à expier sa faute et à purifier sa vie. Mais certains sont moins recommandables. Des tribunaux ont recours au pèlerinage comme pénitence. Le voyageur quitte alors la communauté trahie et chemine longuement pour pouvoir réintégrer le tissu social. S'il meurt en cours de route, la collectivité ne portera pas pour autant le poids de sa mort. Ça n'est clairement pas une peine capitale, mais les incidents, ça arrive. Habile, hein ? Sauf que du coup, les pèlerinages sont truffés de criminels, d'hérétiques, de trafiquants et de bandits, parfois seulement à moitié repentis. Et franchement, il vaut mieux tomber sur la bonne moitié. L'historien Georges Duby définit la route comme un espace marginal où les pèlerins, les ermites, les croisés se mêlent aux vagabonds. Ces pauperesses Christi, les pauvres du Christ, sont à la fois stigmatisées et respectées. Le pèlerin joue sur ce registre, il s'assimile aux pauvres en s'habillant comme lui. Bâton, gourde, besace ou chapeau constituent un véritable marqueur de statut social à une époque où l'habit fait le moine. Il accepte d'être un voyageur, donc un déraciné. Mais c'est un rôle qui prend fin une fois rentré chez lui. C'est autre chose pour le vagabond spirituel qui suscite l'incompréhension et l'hostilité dans un monde qui ne jure que par l'appartenance à un terroir, un village, une communauté. Terminons le cas particulier de la croisade. Un mot compliqué qu'on n'utilise pas à l'époque. On parle bien sûr de partir en pèlerinage, pas d'aller en croisade. Elle est constituée majoritairement de pauvres et de paysans non armés, et des chevaliers l'encadrent. Mais avec le temps, ils finissent par la transformer en véritable entreprise militaire. Pour défendre l'itinéraire vers les lieux saints, on prend et on érige des cités, des places fortes, des garnisons, jusqu'à créer de véritables pays, les États latins d'Orient. Alors qu'à la base, on parlait juste de pèlerinage. D'ailleurs, l'entraide et la charité demeurent les vertus de ces voyages pas comme les autres. Les plus riches princes comme Raymond de Saint-Gilles payent le déplacement de centaines de pauvres. Les dons affluent et l'Église se porte garant de tous les biens de ceux qui partent. Comme tous les voyages, la croisade est un saut vers l'inconnu, mais aussi un joyeux bazar. Certains partent sans rien, ni argent, ni vivres. On verra en route, commerce, mendicité, puis vol et pillage. D'autres n'ont aucune idée des pays ou de la distance à parcourir. Je vous donne mes trois exemples préférés. En Anatolie, l'actuelle Turquie, Guillaume de Tyr déplore 500 morts par jour dans les cols de montagne en hiver. En fait, il croyait tout simplement que le froid n'existait pas au sud. Étienne de Blois, lui, promet à sa femme de rejoindre Jérusalem en 5 semaines. Et il lui faudra 2 ans. Et en 1097, les croisés français arrivent devant Nuremberg et tombent genoux à terre. Ils sont persuadés d'être enfin arrivés à Jérusalem. Loupé. Mais tout ceci en vaut la peine, parce que prier avec ses pieds, c'est considéré comme le summum de la méditation spirituelle de l'époque. On obtient même des indulgences officielles, attestant qu'on a fait la route. Certains petits malins financent leur voyage en revendant une partie des indulgences obtenues, voire montent carrément un business de pèlerin professionnel. On a beau être spirituel, ça reste quand même terre à terre. Mais résister un petit peu à la tentation de critiquer, c'est normal de ne pas comprendre, tant les mentalités de l'époque étaient radicalement différentes. Vous découvrirez ça dans la suite et la fin de notre série sur le voyage au Moyen-Âge. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.